Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, Jocelyne Moussaou Pondé. Lancement hier lundi à Kinshasa des conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale. Pendant 4 jours, autorités, sociétés civiles et jeunesse vont définir des actions pour renforcer la gouvernance, restaurer la confiance et promouvoir la paix dans les provinces. 9 millions d'euros de plus pour l'aide humanitaire en RDC. L'annonce a été faite par l'Union européenne en marge de la conférence de Paris sur la paix dans la région des Grands Lacs. L'invité du journal est Nico Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Il fera le point sur le corridor Sakania-Banana, long de 3300 km à travers 11 provinces de la RDC. Bonjour à tous. Lancement officiel hier lundi à Kinshasa des conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo, organisé par le ministère de l'Intérieur et Sécurité en collaboration avec le secrétariat national pour le renforcement des capacités CENAREC et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ces assises de 4 jours réunissent les gouverneurs des provinces, les administrateurs de territoire, les structures de la société civile et de la jeunesse de plusieurs provinces. Objectif, replacer la gouvernance au cœur de la prévention et transformer les provinces fragilisées en espaces de résilience et de paix durable. On écoute Jacquemin Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Nous nous réunissons dans un contexte marqué par la persistance de menaces sécuritaires multiples. Depuis les violences extrémistes à l'est jusqu'aux conflits communautaires qui secouent nos provinces de l'ouest et au centre, ces violences motivées par des intérêts économiques, identitaires ou religieux ont un dénominateur commun, rendre fragile la gouvernance et creuser un déficit de confiance entre les gouvernants et gouvernés. Ainsi, je lance aujourd'hui un appel solennel aux gouverneurs de province ici présents. Renforcez vos administrations, écoutez davantage vos populations, investissez dans la cohésion de nos communautés. Aux ministres provinciaux, soyez les architectes de la stabilité et du développement local. À nos communautés et à notre jeunesse, développez la résilience et ne cédez ni à la peur ni à la haine. La sécurité est une affaire de tous et la paix se construit à plusieurs, ensemble, avec toutes les composantes de notre société.
Après les élus provinciaux, des notables issus de 366 groupements du Congo central tirent à leur tour la sonnette d'alarme concernant la gestion peu orthodoxe de leur province. Le président de leur structure, Joseph Mabanga, a lancé cette alerte hier lundi lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Il déplore notamment la mise en place des structures parallèles pour la gestion des péages provinciaux. Pour limiter ces dérives, Joseph Mabanga appelle l'équipe de contrôle de l'inspection générale des finances, IGF, actuellement en mission dans la province, à accomplir son travail avec rigueur. Ses propos ont été recueillis par Blaise Ndungala Mayanda.
La gestion, elle se traduit par la mise sur pied des structures parallèles de gestion des péages provinciaux. La création d'une agence de gestion des péages et des pesages du Congo central. Il en est de même de la redevance pétrolière. Le mépris des instructions émanant des autorités nationales. Ici, allusion faite au ministre national des Finances et celui de l'Intérieur. Le gouverneur foule au pied les instructions de sa tutelle. La création des structures confiées à des proches. Nous lançons un appel pathétique à l'équipe de contrôle de l'IGF de faire du bon travail conformément aux instructions qui leur a été données par les lettres du chef de l'État.
Radio Kapi a tenté en vain de joindre le cabinet du gouverneur mis en cause afin d'obtenir sa version des faits. Notez aussi cette bouée de sauvetage de la Commission européenne. Elle fournit une aide humanitaire supplémentaire de 9 millions d'euros en faveur de la République démocratique du Congo afin de répondre aux besoins humanitaires tragiques du pays. Dans un communiqué, l'Union européenne précise que cet engagement intervient alors que Kaja Kallas, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique des sécurités, assistait à la conférence de Paris en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs. D'autres détails avec Alain Rung.
Selon ce communiqué, les conflits dans l'est de la RDC ont considérablement aggravé la crise humanitaire dans la région. Les déplacements massifs ont entraîné une montée en flèche des besoins en fournitures essentielles telles que la nourriture, l'eau et les abris, mais aussi des risques accrus pour la protection des groupes déjà vulnérables tels que les femmes et les enfants. Le financement de 9 millions d'euros vient s'ajouter aux 120 millions d'euros d'aide humanitaire déjà fournie à la région des Grands Lacs en 2025, l'accent étant mis sur l'est de la RDC. Adja Labib, commissaire chargé de la préparation, de la gestion des crises et de l'égalité, a déclaré « La crise humanitaire en RDC est l'une des plus graves de notre époque. L'ampleur des souffrances humanitaires est énorme et mérite toute notre attention. Grâce à ce nouveau financement humanitaire, l'Union européenne vise à venir en aide aux communautés les plus vulnérables en RDC. L'Union européenne reste déterminée non seulement en tant qu'acteur humanitaire, mais aussi en tant que défenseur d'une paix durable à long terme pour la population du Congo. »
Notez aussi l'ouverture ce mardi 4 novembre à Doha du deuxième sommet mondial pour le développement social assise organisée sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Comme vous le savez sûrement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prend part à ses travaux de Doha au Qatar, donc pendant 2 jours, soit du 4 au 6 novembre. Chefs d'État, décideurs et organisations humanitaires vont plancher sur les moyens de lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. Ils vont également discuter de la promotion du travail décent, de la justice sociale, de la solidarité et de l'égalité. Selon la présidence congolaise, ce sommet représente une nouvelle tribune pour le chef de l'État qui entend y porter haut la voix de la RDC confrontée à une grave crise sécuritaire et humanitaire, conséquence de la guerre de prédation menée par le Rwanda. Et puis, quelles sont les vraies causes des événements malheureux du phénomène Kamwina-Sapour qui avait causé d'énormes dégâts humains et matériels dans la province du Kasaï central et qui en sont les vraies victimes? C'est l'objectif d'un atelier de 3 jours organisé à partir d'hier lundi par la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans le cadre de la justice transitionnelle. Environ 30 participants venus des structures partenaires de la Commission y prennent part. Ils seront formés pour bien mener ces enquêtes dans les 5 territoires de la province du Kasaï central et la ville de Kananga. Reportage de André Katende Ngalamouleme.
Cet atelier permettra aux participants d'enquêter sur le vrai cause ainsi que la vérité sur les affres de Kamwina-Sapour, mais aussi apporter un soutien en justice transactionnelle aux vraies victimes de cette guerre, comme le confirme Mgr Augustin Loko, président de la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation. Les participants qui trouvent ce travail risquant souhaitent recevoir des notions sur des techniques d'entretien et comment se sécuriser sur le terrain. Arthur Padingani est coordonnateur provincial de l'Association congolaise pour le droit de l'homme à Sedo, Kasaï central.
Les enquêtes, ce n'est pas un petit travail, ça demande suffisamment de techniques. Il faudrait que d'abord nous connaissions les mesures de protection que nous devons nous-mêmes avoir, comment nous allons nous protéger nous-mêmes, comment nous allons protéger les victimes que nous allons entendre. Il ne suffit pas d'aller dans les enquêtes, mais aussi comment est-ce qu'on va élaborer le rapport.
Signalons que les affrontements entre l'armée et les adeptes du chef Kamwina-Sapour entre 2016 et 2017 ont fait des milliers de victimes dans la région du Kasaï. Et ces victimes n'ont toujours pas bénéficié de la réparation des préjudices causés. Kananga, André Katende Ngalamouleme, Radio Kapi.
Justice à présent, les députés provinciaux du Sud Kivu, Bissimwa Sinderi, attirent l'attention sur les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire dans la ville d'Uvira, devenue depuis février 2025 le chef-lieu provisoire de la province. Selon cet élu, des instances telles que le parquet et le tribunal de paix d'Uvira peinent à traiter les dossiers dans les délais, rendant la vie difficile aux justiciables. À ce problème s'ajoute l'insuffisance des magistrats affectés dans cette zone, ce qui complique le suivi des dossiers en cours. Cette situation, selon lui, exacerbe les arrestations et les détentions arbitraires, y compris les cas de justice populaire. Bissimwa Sinderi est joint par Ronéline Tibonera.
Notre plaidoyer vise beaucoup plus à obtenir de toute urgence l'affectation des nouveaux magistrats du siège et du parquet à Uvira et la réhabilitation des infrastructures judiciaires détruites au mois de février 2025 lors des affrontements malheureux qui ont endeuillé la ville d'Uvira, car la justice ne peut pas attendre, dit-on. Nous avons demandé aussi que l'État remplisse vraiment ses obligations constitutionnelles. Comme vous le savez, la justice doit être rendue dans le délai raisonnable et par des juridictions compétentes et accessibles. Aujourd'hui, faute des personnels, il y a une justice populaire, il y a des mouvements d'autodéfense qui arrêtent, qui ont des cachots. Nous réclamons une affectation urgente des magistrats qualifiés et un appui matériel aux juridictions d'Uvira. Sans justice, il ne peut y avoir ni paix ni développement.
Plus de 3000 travailleurs de chez MAF sont dans l'angoisse de perdre leur travail. L'alerte est lancée par la délégation syndicale de cette entreprise et demande l'implication du chef de l'État pour sauver l'emploi et la stabilité sociale. Dans un mémorandum adressé au président de la République et déposé hier lundi, la délégation syndicale en séjour à Kinshasa affirme que cette société minière opérant dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba emploie plus de 3000 travailleurs congolais et fait vivre plus de 10 000 familles. Cependant, la direction générale de l'entreprise avait annoncé en septembre dernier que si aucun investisseur n'était trouvé d'ici le 30 novembre 2025, toutes les opérations, y compris la production des cathodes de cuivre, seraient arrêtées. On écoute Madame Sidonie Taoundjiri, présidente de la délégation syndicale de chez MAF, dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Cette annonce a plongé les travailleurs dans une psychose totale marquée par la peur du chômage et la désespérance sociale. La date du 30 novembre 2025 approche sans qu'aucun accord de reprise ou d'investissement ne soit conclu. L'entreprise n'arrive plus à payer les salaires à temps. Les avantages sociaux, tels que l'assistance à la scolarité, ne sont plus honorés. Les équipements sont vétustes, faute de renouvellement, ce qui compromet la sécurité et la productivité. Le risque de mise au chômage de plus de 3000 travailleurs est réel, ce qui pourrait engendrer une crise sociale majeure dans les provinces minières. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à cette situation dramatique et au péril en demeure, nous en appelons à votre implication personnelle afin que vous instruisiez le gouvernement et les ministres compétents, mines, emploi, finances, portefeuille, pour accélérer le traitement du dossier de chez MAF. Vous favorisiez la conclusion rapide d'un accord d'investissement ou de reprise pour préserver les emplois.
Dans un courrier électronique parvenu à Radio Okapi, le responsable de chez MAF, Shiraz Virj, attribue cette décision d'arrêter les activités à l'absence d'un accord avec un nouvel investisseur dans le cadre du processus de vente de l'entreprise. En santé, sachez que le mois de novembre de chaque année est consacré à la campagne Novembre Bleu qui attire l'attention sur la lutte contre le cancer de la prostate. Cette action vise à sensibiliser les hommes sur l'importance du dépistage précoce et à encourager le soutien à la recherche. Stanislas Diomi.
Bien que le cancer de la prostate touche principalement les hommes, il est crucial que leurs proches soient également impliqués, affirme le spécialiste. Ensemble, ils peuvent contribuer à briser le tabou autour de cette maladie et encourager une discussion ouverte. Participer aux événements ou partager les informations permet à chacun de jouer un rôle actif dans cette cause. Pour réaliser le dépistage de la prostate, votre premier interlocuteur pour le dépistage est souvent votre médecin généraliste. Il pourra évaluer vos facteurs de risque, discuter de vos antécédents familiaux et vous orienter vers le test approprié. Ensuite, consultez un urologue. Spécialiste de la santé masculine, les urologues sont formés pour réaliser des dépistages et des examens plus approfondis si nécessaire. Aussi, de nombreux établissements de santé proposent des programmes de dépistage organisés où vous pouvez passer des tests de dépistage dans un cadre professionnel et sécurisé. Le diagnostic des cancers, quel qu'il soit, peut être dévastateur. Il est essentiel de ne pas hésiter à chercher du soutien, que ce soit par le biais des groupes de parole, des professionnels de la santé mentale ou d'amis et des familles proposent les spécialistes.
Actualité internationale. Au Soudan, plus d'une semaine après la prise de la ville d'El Fasher par les forces de soutien rapide du général Hemedti, les demandes de rançon se multiplient selon de nombreux témoignages. Les paramilitaires obligent leurs détenus à envoyer ces demandes à leurs proches réfugiés dans d'autres pays, notamment au Soudan du Sud.
L'invité.
L'Agence congolaise des grands travaux ACGT note des avancées significatives, dont les travaux du corridor Sakania-Banana, long de 3300 km et traversant 11 provinces de la RDC. Le directeur général de cet établissement public, Nico Nzaonzao, assure que ces travaux seront finalisés d'ici fin 2027. Nico Nzaonzao s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour, monsieur le directeur général.
Bonjour.
L'Agence congolaise des grands travaux et les maîtres d'ouvrage délégués du projet des corridors Sakania-Banana. Qu'est retenir de ces projets?
C'est un grand projet qui vient de la vision du chef de l'État. Il rêvait d'une route qui partira de Sakania jusqu'à Banana et qui traverserait 11 provinces. Et ça, c'est son rêve. Et donc, nous avons capté cette idée. Eh bien, nous avons voulu le matérialiser, évidemment, avec l'appui du gouvernement, parce que vous devez savoir que dans le plan quinquennal du gouvernement 2024 jusqu'à 2028, ce projet est repris. Et nous avons voulu matérialiser ce projet avec nos partenaires du programme sino-congolais pour construire le maillon qui restait. Parce que vous devez savoir que la route numéro 1 part de Sakania jusqu'à Banana ou verse, c'est 3300 km. Mais sur ce tronçon, il existait un maillon, un trou qui était entre Mbujimayi et Ngouba. Ça faisait à peu près 850 km. Et bien, 850 km, on a pris le défi de pouvoir le construire. Et le chef d'État nous a donné un délai. Et nous avons vu que c'était possible de le faire. De 850 km, nous allons faire de ça en 3 ans au lieu de 10 ans qui sont initialement prévus.
Les financiers sous fonds propres du gouvernement, à hauteur de combien, si c'est pas un secret?
C'est pas un secret. Le projet en soi va coûter 900 millions de dollars. Et puis, avec les ajustements qui vont venir, c'est sûr qu'on va arriver à 1 milliard de dollars. Et ce n'est pas une dette. C'est un financement qui vient du programme sino-congolais. L'argent, c'est l'argent du gouvernement. Mais ici, n'est-ce pas, du programme sino-congolais, c'est pour dire que ces travaux seront bel et bien terminés et en temps.
Quelles sont les entreprises de mise en œuvre?
Dans le programme sino-congolais, il y a tout un montage institutionnel qui existe. La seule entreprise qui fait tous ces travaux, il s'appelle Cisco, une entreprise chinoise. Mais derrière elle, il travaille avec des sous-traitants. Vous connaissez CREC, Sino-Hydro et consorts. Donc, c'est tout un groupement de plusieurs entreprises qui travaillent pour le moment sur les 850 km dont je vous ai parlé. Et pour atteindre cet objectif, nous avons divisé, n'est-ce pas, ce projet en 6 lots. Donc, sur chaque lot, à peu près de 150 km, il y a une entreprise qui travaille et il a comme objectif de pouvoir terminer les travaux dans les 3 ans. Alors, du côté de la partie congolaise, l'Agence congolaise des grands travaux fait une coordination et il travaille avec plusieurs autres acteurs, notamment l'agence de pilotage, l'office de route qui travaille avec nous dans la mission de surveillance. Il y a également l'OVD. Tandis que du côté des contrôles, nous avons des missions internationales comme BECA, nous avons SIGMA, et la grande mission c'est BTC. Donc, en tout, nous avons formé, nous avons tout fait pour avoir toutes les expertises possibles ensemble, de manière à ce que la route soit bien faite, d'être livrée dans le temps, mais aussi conçue avec des normes.
Quels sont, selon vous, les avantages sur les plans socio-économiques d'un tel corridor?
Si on veut devenir riche, si on veut se développer, il faut construire la route. Parce que la route vous amène tout et la route vous transporte partout. Donc, en d'autres termes, les retombées économiques sont énormes pour cette route. Parce que vous devez savoir que cette route, bien qu'elle traverse 11 provinces, elle est connectée à toutes les provinces parce que toutes les routes de la République viennent se connecter sur la RN1. Donc c'est un peu les colonnes vertébrales de notre pays. Et une fois cette route terminée, nous allons avoir des échanges commerciaux, nous allons avoir la mobilité, la réduction de temps pour l'accueil des produits, nous avons les produits agricoles, nous avons les produits forestiers qui viennent de partout. Eh bien, tout cela va passer pour la première fois sur route, d'allant de zones de production jusque à la porte, les uniques portes que nous avons, c'est la porte maritime de bananes. Donc là, nous allons des créations d'emplois. Vous devez savoir que ça va générer beaucoup d'emplois. Et nous avons également les développements de toute une région. Par exemple, le centre. Vous savez que le centre aujourd'hui est enclavé, hein. Tout cela pour vous dire que dès que cette route-là, les corridors de bananes sera totalement construit, eh bien, nous allons avoir des retombées au niveau de l'économie, parce que quelqu'un qui est en Boujimaï, quelqu'un qui est à Kananga ou en Bavoloboudi, il pourrait, n'est-ce pas, bénéficier de ces retombées. Donc, il y aura une amélioration considérable à ce qui concerne la vie de la population.
Monsieur le directeur Nico Nzaou, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Ainsi, je prends fin à ce journal coordonné par Divine Mbinga Vubu, Pierre Diassinois. La mise en onde, merci de l'avoir suivi.